Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vivante Église, une émission spéciale de la fête de l'Ascension à la fête de la Visitation à la fête de Pentecôte. Et c'est toute la maternité spirituelle de la Vierge Marie que nous allons voir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine de Vivante Église. C'est une émission consacrée à la Vierge Marie. Nous sommes entre ces deux grands mystères, l'Ascension du Christ et la fête de Pentecôte. Dans cet intervalle apparemment silencieux, une femme est là. Elle est là, elle est présente, fidèle, priante, c'est Marie. Mais Marie n'est pas seulement une mère biologique, elle est aussi mère dans la foi, mère dans l'attente, mère dans la mission. À travers son voyage vers sa cousine Élisabeth, que l'on célèbre avec la fête de la Visitation, Marie nous montre qu'être mère, c'est se mettre en route, c'est porter une promesse et c'est servir l'amour. Elle rejoint les apôtres dans la prière, dans cet espace aussi du Cénacle. Elle donne la vie, elle donne cette maternité aussi pour le monde. Marie reste discrète, elle continue de nous accompagner aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, dans ce Vivante Église spécial, fête de la Pentecôte qui nous conduira à célébrer la fête de la Visitation et jusqu'au jour de la fête de Pentecôte, c'est le Père Yann Dominique de la Forêt au service du sanctuaire de Lourdes que je reçois au micro. Bonjour Père.
Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs.
Alors on va garder, c'est le fil conducteur en ces jours de fête, de l'Ascension à la Pentecôte, le fil conducteur est la Vierge Marie. Vierge Marie dans cette maternité universelle. Et on va faire un bout de chemin, si vous le voulez bien, Père Yann Dominique, un bout de chemin avec la Vierge Marie qui va faire route, chemin, un voyage vers sa cousine Élisabeth. Que nous dit ce voyage de Marie? C'est le début d'un acte missionnaire. Elle part à la périphérie quelque part, Marie, vers sa cousine. On vous écoute et merci.
Oui, tout à fait. Elle part à la périphérie, comme vous dites, puisque elle quitte ce lieu où elle a reçu la visitation de l'archange Gabriel, qui lui a fait cette annonciation qui bouleverse complètement sa vie et même sa vie spirituelle, puisque Marie est une petite juive. Elle a donc été éduquée dans le fait qu'il existe un Dieu unique. Et là, elle reçoit, au moment de son annonciation, eh bien, elle reçoit la révélation du Dieu trinitaire. C'est un sacré bouleversement. Il fallait l'humilité et la petitesse de la très sainte Vierge Marie pour pouvoir accepter de ne pas voir de contradiction entre le mystère du Dieu un et du Dieu trine. Ça, c'est quand même une nouveauté exceptionnelle qu'elle accueille dans sa foi toute humble, toute pauvre, de comprendre en fait que Dieu a un fils de toute éternité et qu'elle va être en fait celle qui va l'enfanter, celle qui va l'engendrer. Et c'est le titre d'ailleurs, vous savez, au Concile d'Éphèse, en 431, ce titre de Théotokos qu'elle reçoit, qui est traduit par Mère de Dieu, mais qui, dans le grec, signifie celle qui engendre Dieu. Celle qui engendre Dieu. Et Marie, eh bien, accueille pleinement cette révélation. Elle devient Mère de Dieu, et en devenant Mère de Dieu par le fait de mettre au monde donc le Verbe éternel, le Christ, eh bien, elle va devenir aussi la mère de l'Église tout entière, puisque l'Église, eh bien, est le corps du Christ. Si Marie est la mère de la tête, eh bien, elle devient aussi la mère du corps, elle est la mère de toute la personne, vous voyez, du Christ. Et en ce sens, eh bien, elle devient la mère de chacun d'entre nous, et elle va devenir même, selon l'expression de Paul VI, la mère de l'Église. Alors, tout de suite, quelque part, eh bien, elle part en chemin, docile au Saint-Esprit, parce que ça, c'est justement, je dirais particulièrement, un lieu où elle devient notre éducatrice, cette docilité à l'écoute de l'Esprit-Saint, Elle comprend immédiatement que sa cousine Élisabeth a besoin de son aide et elle se met avec hâte. Elle se met avec hâte. Et ça, c'est très, très beau parce que l'obéissance au Saint-Esprit, ça n'attend pas. Vous voyez, dès qu'on discerne un souffle de l'Esprit, eh bien, on y va. L'obéissance, c'est d'abord une vertu d'exécution, vous savez. C'est recevoir, en fait, quelque part, eh bien, une demande et l'appliquer tout de suite, quoi. Et Marie, elle a cette docilité, en fait, au Saint-Esprit qui fait qu'immédiatement, avec hâte, eh bien, elle est dans la hâte d'obéir, en fait, au souffle de l'Esprit. C'est le don de conseil, hein, d'une manière particulière, ici, qui la pousse à aller à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Et elle y va, elle est enceinte, si je puis dire. Elle a donné son fiat. Hein. Comme dit saint Augustin, elle a déjà conçu dans sa foi avant de concevoir dans sa chair. Et donc, elle arrive comme une véritable missionnaire. Et le propre de la mission, c'est quoi ? C'est d'apporter le Christ. Et Marie, quand elle arrive chez Élisabeth, eh ben, elle arrive porteuse du Christ. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose que nous avons tous, en fait, à bien comprendre. C'est que, et le pape Léon XIV, en fait, la redit, notamment dans l'une de ses premières interventions, en disant qu'il y avait un besoin urgent pour toutes les nations de recevoir la lumière du Christ, d'accueillir la lumière du Christ. Et ça, c'est le propre, en fait, de la mission. On est missionnaire pour communiquer une lumière, pour enflammer, en fait, notre prochain. Et quand je dis enflammer, vous voyez, je pense déjà à la Pentecôte, on y reviendra un peu plus tard, mais ce sont des langues de feu, c'est le symbole du feu, la Pentecôte, du feu du Saint-Esprit qui, quelque part, eh bien, nous est donné pour que nous puissions annoncer le nom de Jésus et communiquer en fait, la lumière de la sagesse divine. Voilà. Donc Marie arrive chez Élisabeth, elle est porteuse du Christ, et c'est ça, en fait, d'abord qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous sommes envoyés, eh bien, le Seigneur ne nous envoie pas seuls, il nous envoie avec la grâce que nous avons reçue. Nous sommes porteurs de Jésus, nous ne sommes jamais seuls quand nous évangélisons. Nous avons en fait la présence du Christ en nous nourrit à travers évidemment notre vie sacramentelle. Et nous sommes là en fait pour être un visage du Christ pour le monde. Et un visage du Christ, eh bien, c'est ce qui va se passer dans cette rencontre, la révélation en fait de sa maternité divine. Ça signifie qu'il y a eu dans cette rencontre, si vous voulez, quelque chose d'extraordinaire, évidemment, parce que c'est une rencontre qui est extrêmement, extrêmement charismatique. Vous avez deux femmes qui se rencontrent et qui sont objets de miracles. Vous en avez une qui vient de concevoir à l'ombre de l'Esprit-Saint, et puis vous avez une autre... Donc sa cousine Élisabeth, qui elle-même, alors qu'elle n'était plus en âge eh bien, d'enfanter, qui elle, enfante aussi miraculeusement. Vous voyez ? Donc c'est extrêmement charismatique, je dirais, cette rencontre, parce qu'il y a un acte, si vous voulez, il y a la puissance de l'Esprit-Saint qui est partout dans cet événement.
Alors, vous parlez de ces deux femmes, Élisabeth qui est bien plus âgée que Marie, donc s'opère dans ce temps d'enfantement aussi le miracle de Dieu chez Élisabeth. Le tressaillement de Jean marque-t-il un peu cette première manifestation de l'Esprit ?
Ah, c'est une grande question. C'est une très belle question. Oui. Vous savez... Jean, en fait, à travers la présence de Marie, c'est par la voix de Marie. C'est lorsque Élisabeth entend, lorsque Jean le Baptiste entend la salutation de Marie, qu'il tressaille. Et il tressaille de joie. C'est un tressaillement de joie. Alors, c'est magnifique parce qu'en fait, vous voyez, la présence de Dieu est cause de notre joie. Elle est cause de notre joie. Si vous vivez dans la présence de Dieu, votre joie, elle ne vous quitte pas. Elle ne vous quitte pas parce que vous êtes dans la présence de Dieu. au plus profond. Vous pouvez avoir des moments de tristesse, bien entendu, mais au fond de vous-même, vous avez cette paix intérieure parce que vous êtes dans la présence de Dieu, la présence du Christ ressuscité, comme le matin de Pâques, vous voyez, paix à vous, hein, et immédiatement, en fait, la paix épouse la joie. La paix épouse la joie chez tous les disciples. Et ils furent dans la joie à la vue du Seigneur. Voilà. Donc, il y a un tressaillement, si vous voulez, de joie chez ce nourrisson qui est dans le sein maternel. Alors, on ne peut pas dire qu'il avait conscience de ce qui se passait, sans doute. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que cette joie ne peut pas être exclusivement naturelle chez Jean le Baptiste. Vous voyez, comme un mouvement, en fait, un mouvement intérieur qui est ressenti par Élisabeth. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être uniquement naturel? Parce que c'est causé par la présence, en fait, du Sauveur. Comme c'est causé par la présence du Sauveur, si vous voulez, il y a quelque chose qui réclame une réponse surnaturelle. Et c'est ce qui se passe, d'ailleurs, puisque Élisabeth va le comprendre. Elle va être remplie, du coup, de l'Esprit-Saint et elle va y aller d'elle-même de cette salutation en disant « Béni es-tu entre toutes les femmes béni. » Et que me vaut, en fait, l'honneur de recevoir la visite de la mère de mon Seigneur. C'est-à-dire qu'elle a la révélation à ce moment-là, par le tressaillement, en fait, de Jean le Baptiste, elle a la révélation, donc, de Marie dans sa maternité divine. C'est le moment de la révélation de la maternité divine, en fait, faite aux hommes. Parce que jusqu'ici, c'était un secret gardé par la très sainte Vierge Marie, hein, et puis qu'avait reçu, bien entendu, Joseph, puisque dans son sommeil, alors qu'il avait décidé donc de répudier Marie, il a reçu cette révélation de l'ange qui lui a dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Joseph est le premier en humanité à accueillir Marie chez lui comme épouse. Vous avez quelque part trois visites dans l'Écriture. Vous avez Joseph, vous avez Élisabeth et vous avez Jean. Voilà. Alors, on pourrait en parler.
Alors oui, mais c'est très beau, ce moment aussi.
Oui, mais pour revenir, si vous voulez, à ce moment de la visitation, eh bien, Élisabeth reçoit quelque part, elle est celle qui comprend que son fils est en train de désigner déjà l'agneau de Dieu. La présence du Christ, vous savez, quand l'Écriture dit que Saint Jean le Baptiste, eh bien, sera saint dès le sein maternel, eh bien, en fait, au moment de cette visite, que se passe-t-il ? Jésus fait de lui le prophète et il est déjà en train, dans le sein maternel, en train de désigner l'agneau de Dieu, ce qu'il accomplira d'une manière autre au moment du baptême de Jésus dans le Jourdain.
C'est grand, c'est un beau moment. Hein. On parle de ce mystère, hein, ouais. Que ce mystère, on le prie. Et pour ceux qui prient le chapelet, le rosaire voit tous les jours, ce mystère aussi de la visitation. Vous en parlez si bien de cette rencontre de la Vierge Marie à Élisabeth. Et au fond, c'est le moment de la grande révélation. C'est le moment aussi où Jean tressaille dans le sein de sa mère, d'Élisabeth. Il devient prophète, lui aussi, pour la première fois.
Tout à fait.
En donnant cette révélation du Sauveur.
Oui.
C'est une rencontre à quatre.
Oui.
Ils sont nombreux ce jour-là.
Puisse-t-il
aussi visiter aujourd'hui, dans ces temps particuliers qui nous conduisent au temps de la Pentecôte, préparer aussi le cœur de ceux et celles qui vous écoutent aujourd'hui, Père Yann Dominique de la Forêt. Si vous deviez dire un mot directement à chacun de nos auditeurs en ces jours qui sont particuliers, préparons-nous un peu pour vivre ce moment de cette grande fête du Saint-Esprit qui descend
qui est la Pentecôte. Oui. Eh bien, j'ai envie de vous dire et de me redire à moi-même.
À nous tous. Hein.
À nous tous. Que nous sommes tous appelés d'une manière singulière. Tous appelés d'une manière singulière. Eh bien, à accueillir la visitation de Marie. Tous. Parce que cette visitation a une conséquence pour chacun d'entre nous, dans notre vie spirituelle. Cette conséquence, c'est quoi? C'est que si nous accueillons Marie, eh bien, nous accueillons la présence du Christ, et la présence du Christ provoque, déclenche une effusion du Saint-Esprit. La visitation, c'est une anticipation de la Pentecôte. Vous avez quatre acteurs, et ces quatre acteurs, ils sont envahis du Saint-Esprit. Mais au point, si vous voulez, qu'il y a une jubilation. Il y a une jubilation. C'est de la joie, c'est de l'allégresse. L'Esprit Saint, il n'est pas triste. Hein. C'est un fruit. Parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a la joie, particulièrement, quoi. J'aimais beaucoup l'expression du pape François en disant que l'Église, eh bien, devait être une Église des joyeux. Une Église des joyeux. Et c'est vrai. C'est vrai, quand vous avez le Christ, mais vous avez tout, vous avez tout. Alors bien sûr, il y a les soucis de la vie, etc., qui nous gagnent, il y a quantité de souffrances, mais au fond de nous-mêmes, j'en reviens en fait à cette présence du Christ qui nous apporte un fruit du Saint-Esprit, qui est le fruit de joie, et qui a pour conséquence en fait que Élisabeth est rempli de l'Esprit-Saint, que Saint-Jean-Baptiste est rempli d'Esprit-Saint, qu'on est en présence de Marie qui est complètement saisie du Saint-Esprit, et qu'on est en présence de celui qui envoie avec le Père l'Esprit-Saint sur chacun d'entre nous. Donc si vous voulez être douché du Saint-Esprit, eh ben, en préparation, vous prenez le Cénacle, vous dites dans un acte de foi, Vierge Marie, allez, il est temps que tu me visites, comme tu as pu visiter Lourdes et remplir du Saint-Esprit, et notamment de l'Esprit de vérité, cette chère Sainte Bernadette qui est fascinante d'amour de la vérité. Elle ne dit rien de plus, rien de moins. Elle est attachée mais à ce que la Vierge Marie lui dit, mais c'est saisissant, quoi. Parce que nous, on enrobe toujours un petit peu, vous savez, les choses. Hein. On dit toujours un peu plus ou un peu moins de manière à pouvoir nous glorifier quelque part. Mais alors, elle a cette intégrité du cœur qui, moi, personnellement, me touche énormément. Et elle accueille cette visite de la Vierge Marie qui va non seulement transformer, si je puis dire, sa vie, transformer la région et transformer le monde. Le rayonnement de Lourdes est universel.
Alors, ce rayonnement se vit dans la joie, dans le tressaillement aussi, dans l'exultation. Hein, et je pense à cette magnifique prière du Magnificat. Alors, que nous dit cette prière du Magnificat? Que nous dit cette prière de cette femme, au fond, femme prophète, femme mère, puisqu'on parlait, on évoquait en tout début d'émission la Vierge Marie dans cette maternité universelle pour le monde, hein. Que nous dit ce Magnificat, Père Yann-Dominique de la Forêt? On se retrouve après. Ça sera la dernière question de cette première partie de ce Vivante Église. Et on se retrouve après.
Il faudrait toute une retraite, là. Prêcher toute une retraite sur le Magnificat.
Venez prêcher sur nos radios.
C'est tellement dense, tellement beau. Je retiendrai quand même trois choses, trois points. Le premier point, c'est d'abord que le Magnificat, quand vous le regardez de près, en fait, c'est le fruit de la méditation de la parole de Dieu par Marie. C'est-à-dire que c'est imprégné de versets bibliques de l'Ancien Testament. Marie faisait pas que chanter en fait les psaumes, etc. C'était une personne, et c'est une personne, si vous voulez, qui achève ou prolonge dans sa chair ce qu'elle vivait déjà dans son âme, c'est-à-dire d'accueillir la parole de Dieu. Vous voyez, je ne dis pas que ça n'a pas été extraordinaire, ça a été complètement extraordinaire ce qu'elle a pu vivre au moment de la révélation. Mais c'est le prolongement, en fait, depuis, si vous voulez, l'aube de sa conscience. Marie, elle est pétrie de Dieu, elle est pétrie de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et elle continue à accueillir, à travers le mystère de la révélation de l'éternité de Dieu qui est trinitaire, eh bien, à accueillir en fait celui qui est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Et ça, c'est, il faut bien sûr l'Esprit Saint, puisqu'on l'a vu d'ailleurs dernièrement, hein, c'était justement hier, à travers l'évangile donc du sixième dimanche du temps pascal, où il était question en fait de l'Esprit Saint, qui est celui qui vous enseignera et qui vous rappellera tout. C'est-à-dire qu'à la fois il donne l'intelligence de la parole de Dieu, et en même temps il nous fait mémoriser la parole de Dieu, il nous fait remonter la parole de Dieu à la mémoire. Donc Marie, par le Saint-Esprit, si vous voulez, hop, il y a toute la parole de Dieu en fait qu'elle a méditée qui ressort, et elle en fait un Magnificat. C'est extraordinaire. Et alors ce Magnificat-là, eh bien, il faut se mettre à son école, écrivez votre Magnificat. Écrivez votre Magnificat. Chacun, chacune, des merveilles, de la gloire, de la louange de Dieu. J'avais deux autres choses à dire.
Allez-y, très vite, très vite, très vite.
La deuxième chose, c'est la dimension d'humilité, en fait, hein, la vertu d'humilité qu'il faut demander, parce que Dieu se penche, en fait, sur l'humilité de sa servante. L'humilité, c'est la vertu, si vous voulez, qui attire Dieu, qui fait fondre le cœur de Dieu, quoi. Vous voulez toucher le cœur de Dieu ? Eh bien, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux, priez le Seigneur par un acte d'humilité et vous allez voir, boum, il vous tombe dessus, le Seigneur. Quand vous réclamez cette vertu d'humilité, il tombe sur la personne qui a un cœur humble. Et la troisième chose, c'est la dimension prophétique de Marie. Alors ça, et la joie de sa louange, toutes les générations me diront bienheureuse, Marie a une louange de type prophétique. Vous voyez, elle prophétise sur sa propre vie. Et ça, d'apprendre à prophétiser sur notre propre vie, eh ben, c'est se mettre à l'école de la Très Sainte Vierge Marie, dans la louange et dans l'action de grâce de Dieu, en disant que, en proclamant les promesses et les merveilles que Dieu veut faire dans votre vie. Eh ben, moi, je vous invite, pendant ce temps du Cénacle que nous allons commencer, eh bien, à proclamer les merveilles, des merveilles sur votre vie, sous le souffle de l'Esprit-Saint, dans la prière, de louer le Seigneur, et parce que nous allons recevoir, être renouvelés à travers la Pentecôte, eh bien, du Saint-Esprit, qui va nous demander justement de pouvoir devenir des témoins de la résurrection.
Alors, devenons ces témoins de la résurrection, et je vous propose, Père Yann-Dominique de la Forêt, dans ce Vivante Église, une plage musicale avec un chant à la Vierge Marie, et on se retrouve juste après.
Église, Nathalie Cardon.
De retour dans cette émission de Vivante Église, émission spéciale consacrée à la Vierge Marie dans toute sa splendeur, son humilité, son obéissance. Marie qui rayonne, Marie qui est mère de l'Église, Marie mère de l'Esprit. Père Yann-Dominique de la Forêt, c'est vous qui intervenez aujourd'hui dans cette émission spéciale mariale, puisque au jour de l'Ascension, nous allons fêter aussi cette visitation de Marie et nous nous destinons aussi à cette fête de la Pentecôte. Marie est mère, Marie est présente au Cénacle et c'est au Cénacle que je vous donne rendez-vous, chers auditeurs. Et je vais vous demander, Père Yann Dominique, de nous rendre... Alors, on voyage avec vous dans cette émission. On a visité Élisabeth avec la Vierge Marie et nous nous rendons avec Marie. Et nous retrouvons aussi tous les apôtres dans cet espace réduit, l'espace aussi du Cénacle que l'on nomme. Alors, qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce qui se dit de la posture aussi de la Vierge Marie Mère de Dieu, quel est l'enjeu, quel est l'enjeu pour le monde au fond et cette Église qui sera le moment aussi de la naissance de l'Église.
Bonjour à tous. La Vierge Marie au Cénacle, elle est la mère des apôtres. Et en fait, si vous voulez, quand vous contemplez Marie, vous contemplez la coopération la plus parfaite qui ait existé avec le Saint-Esprit. Et c'est en fait ce qui se passe ici à Lourdes, à la grotte de Massabielle. Vous avez en vis-à-vis Sainte Bernadette, qui n'est pas encore sainte, et la très sainte Vierge Marie. Et d'une certaine manière, d'un côté, vous avez l'humanité blessée, à travers Bernadette, et puis vous avez l'Immaculée Conception, qui est l'humanité guérie. Marie a reçu par avance toutes les grâces pour être immaculée dans toute sa vie. Et en fait, vous avez là, si je puis dire, le chemin de notre espérance. C'est-à-dire qu'au ciel, nous serons tous immaculés. Nous serons tous immaculés. Voilà. Donc, vous avez à travers la figure de Marie l'exemplarité de la sainteté dans le cœur de la créature. Et donc, c'est un chemin qui est à effectuer. Marie est modèle pour chacun et chacune d'entre nous. Et elle est d'autant plus modèle, en fait, qu'elle nous enfante, qu'elle est notre mère. Et ça, en fait, elle l'a compris. Je crois que Marie a compris qu'elle était la mère des apôtres, si vous voulez, ben, au moment du Cénacle, d'une manière particulière. Pourquoi ? Ben, parce que, si vous voulez, Marie, du temps de Jésus jusqu'à la mort de Jésus, elle était la mère de son fils bien-aimé. Elle l'a enfanté, elle s'en est occupée, elle l'a nourri, elle l'a accompagné jusqu'au renoncement. Que fait une mère par rapport à son enfant, vous voyez ? Et elle a été mère, si vous voulez, pour lui, jusqu'à sa mort. Bon, ça c'est historiquement. Mais au moment de la mort, que se passe-t-il ? Je crois qu'au moment de la mort, Jésus lui révèle le grand mystère de son corps mystique. Il lui révèle le grand mystère de son corps mystique parce qu'elle est en train de contempler son fils. Elle est au pied de la croix. En train de contempler son fils, et que se passe-t-il ? Jean est à côté. Et Jésus a ces deux paroles, il dit à Marie, voici ton fils. Et il dit aux disciples, voici ta mère. Alors, imaginez, projetez-vous un petit peu à la croix. La Vierge Marie est en train de regarder Jésus. Elle n'a Dieu que pour Jésus. Elle n'est pas en train de regarder Jean. On est d'accord. Elle ne fait que regarder Jésus. Elle est là en train de... C'est Notre-Dame de douleur, en train de pleurer son fils qui vient d'être complètement martyrisé, qui est crucifié. Et elle croise le regard de Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, voici ton fils. » Et il dit pas ça sans rien faire. Obligatoirement, il pose son regard sur Jean. Obligatoirement. À ce moment-là, il pose son regard sur Jean, puisqu'il va dire... la réciprocité à Jean. Donc Marie, quand elle contemple Jésus, et elle suit le regard de Jésus, et elle pose son regard en fait sur Jean. Et là, elle comprend que en fait Jésus s'identifie à Jean. Puisque en fait, elle a qu'un seul fils, j'ai envie de dire, pour elle dans son cœur, vous voyez ? Elle a qu'un seul fils. Et elle dit en fait à ce moment-là, en fait, elle reçoit cette parole du Christ qui lui dit « Voici ton fils » en regardant Jean. Jean devient son fils. En fait, Jésus s'identifie à Jean à ce moment-là. Et derrière Jean, aujourd'hui, les théologiens, en fait, le proclament tous. Il y a une unanimité, en fait, de ce point de vue-là. Hein, eh bien, elle devient, quelque part, pleinement mère de chacun d'entre nous. Mère de chacun d'entre nous. Et donc, Marie va vivre le temps du Cénacle, si vous voulez, avec cette conscience, j'ose le dire, je m'avance peut-être un petit peu, mais en tout cas, elle est au milieu, si vous voulez, des apôtres. Elle est la mère de Jean, et intérieurement, elle qui médite les paroles du Christ dans son cœur, qui médite tous les événements, je pense qu'elle a compris avant saint Paul le mystère du corps mystique du Christ. Et que là, eh bien, si vous voulez, elle est mère, et elle va éduquer dans ce temps du Cénacle, ils sont à côté de la mère, elle va les éduquer en fait à la prière et à l'attente de l'Esprit-Saint. Tout en étant le modèle de celle qui vit de la manière la plus extraordinaire, si vous voulez, eh bien, une vie dans l'Esprit. Et donc Marie devient modèle d'abord de celle qui écoute. Elle est vraiment modèle de celle qui écoute, parce qu'elle a saisi et elle écoutait, vous savez, la parole de Dieu, les paroles du Christ, elle les méditait dans son cœur. Donc là, j'ose imaginer qu'ils ont dû tellement échanger au Cénacle, si vous voulez, toutes les paroles, les dernières paroles de Jésus au moment de la Sainte Cène, qui est le lieu, en fait, du Cénacle. Hein. Donc c'est dans le même lieu, quoi. Ils se retrouvent là, en fait, dans l'attente de l'Esprit-Saint. Et c'est ça qui est très, très beau, c'est que vous avez, en fait, un parallèle entre la Sainte Cène, avec le Christ, sauveur du monde, qui est au milieu d'eux, et vous avez le Cénacle, où vous avez le Saint-Esprit qui prolonge la mission du Christ au milieu d'eux et qui va débarquer. C'est très très beau ça, c'est magnifique. Et la Vierge Marie qui est là comme reine des apôtres, mère des apôtres, et qui est dans l'attente, dans l'écoute en fait de l'Esprit, dans l'écoute de l'Esprit, en train sûrement de ruminer les paroles du Christ qui leur a dit qu'ils vont recevoir une force d'en haut, etc., et qu'ils deviendront ses disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, elle est bien sûr, en fait, ils se mettent à l'école hein, au niveau de la prière. Hein. Au niveau de la prière, là, bon, ben, si vous voulez, elle est un modèle de louange, elle est un modèle de prière pour chacun d'entre eux, et ils doivent se sentir tout petits devant celle qui a appris à Jésus à prier. Il faut quand même réaliser ça. Elle a quand même appris à Jésus à prier pendant toute sa petite enfance. Et donc, si Marie a appris à Jésus à prier, bah, si vous voulez, les disciples doivent se dire, bon, pour l'instant, on va se mettre à l'école de sa mère.
C'est une bien belle image, là. Hein. On chemine aussi, on se prépare. Et merci hein, de votre présence aujourd'hui dans cette émission. Vous nous préparez quelque peu et vous invitez les auditeurs à faire un bout de chemin, au fond, avec celle qui a été choisie. Hein. Au jour de l'Annonciation, elle a été choisie, elle a donné ce oui. On fait des pas. On a médité dans ces premières minutes de l'émission Vivante Église, cette visite à Élisabeth, qui est de l'ordre aussi de la rencontre. Là aussi, Marie va écouter sa cousine. Mmh. Et là, peut-être, allons-nous aussi, chers auditeurs, nous arrêter avant d'entrer et de célébrer cette fête de Pentecôte. Hein. Je ne sais pas le conseil que vous pourriez donner, Père Yann Dominique, mais j'ai noté que vous avez rappelé que Marie était ce modèle d'écoute. Au fond, Marie, c'est le modèle de foi, un modèle de sainteté, un modèle aussi d'espérance. Éducatrice de la prière. Et au Cénacle, Marie était pleine d'espérance, dans l'attente, mais elle n'était pas dans la crainte, elle n'était pas dans la peur. Certains apôtres, eux, craignaient. Ils avaient peur, mais Marie n'avait pas peur.
Oui, Marie n'avait pas peur. Marie, elle est fixée sur Jésus. Elle est dans l'attente, en fait, de la promesse du Christ. Sa foi, si vous voulez, à hâter sûrement la résurrection de son fils. Ils sont tous partis, en fait, à leurs travaux, à la pêche, etc. Et elle, pendant le samedi saint, eh bien, elle a médité les paroles de Jésus. « Je suis la résurrection et la vie. Hein, et le troisième jour, je ressusciterai. Elle a gardé ça dans son cœur, c'est évident. Et elle en a fait la nourriture, évidemment, de son espérance. C'était la volonté, en fait, du Père de ressusciter son fils le troisième jour. Et donc, elle se met dans cette dynamique. Elle se met dans cette dynamique. Et cette dynamique-là, en fait, eh bien, elle la garde, bien entendu, analogiquement avec la promesse de l'Esprit. Avec la promesse de l'Esprit. Et donc, elle est au Cénacle, si vous voulez, dans cette attente, en fait, de cette force d'en haut. Et elle nous éduque, en fait, eh bien, à disposer notre cœur pour que cette promesse puisse venir s'accomplir en chacun et chacune d'entre nous, quoi. Et c'est ce qui va se réaliser, bien entendu, à travers cette symbolique des langues de feu, qui sont donc des langues pour l'évangélisation. Les langues de feu, elles sont représentées, vous savez, comme descendant sur la tête de chacun et chacune de la Vierge Marie et des apôtres, hein, au-dessus de leur tête. Mais moi, j'ai la conviction, en fait, que ce n'est pas sur la tête qu'elles sont descendues, c'est qu'elles ont enflammé leur langue, vous voyez, corporelle. Pour que, en fait, eh bien, elles deviennent vraiment ces langues de feu du Saint-Esprit, du feu de la charité qui est à communiquer avec cette révélation, eh bien, du kérygme, de ce que l'on appelle le kérygme, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection du Christ, comme première grande lumière, si je puis dire, d'évangélisation.
Cette émission va se terminer, Père Yann Dominique. Je vais vous demander peut-être un mot de fin, peut-être une prière particulière, et puis un mot pour ceux et celles qui vous ont suivi aujourd'hui, en vue toujours de se préparer, de préparer son cœur et de se laisser enflammer par ce Saint-Esprit qui va venir brûler, peut-être réanimer ce qui doit être réanimé aussi, visiter là où on a été peut-être un peu fragiliser, mettre la paix là où il y a la colère, remettre peut-être cette joie là où il y a toute tristesse et redonner peut-être ce mouvement de vie. Donc, comment accueillir ce Saint-Esprit? Comment s'y préparer, Père Yann? C'est la dernière question. Et comment exulter de joie avec la Vierge Marie? Alors, donc, on a bien compris, mettons-nous à son école,
hein, oui.
Voilà. Donc écoutons et soyons obéissants et demandons aussi sur ce chemin, demandons aussi l'humilité, hein, beaucoup d'humilité, et elle est l'exemple suprême.
Je crois qu'il faut vivre ce temps donc du Cénacle, hein, avec la Vierge Marie en lui demandant de nous communiquer la qualité de sa certitude de foi. Vous savez, la vie, notre vie, en fait, est suspendue, notre vie chrétienne est suspendue à notre vie de foi. On parle de la porte de la foi dans les Actes des Apôtres, la porte de la foi. Parce que la foi ouvre à tout, et elle ouvre surtout, en fait, à la certitude que Dieu réalise ses promesses. Et il y a cette promesse du don de l'Esprit. Et on peut vivre 50 Pentecôtes, pendant 50 ans, si vous voulez, en disant « Ah, il faut que le Saint-Esprit vienne, ah, il faut que le Saint-Esprit descende dans ma vie. » Mais en fait, si vous voulez, c'est une question de foi. C'est-à-dire que je pose un acte de foi, même si je ne sens rien, je pose un acte de foi, comme la Vierge Marie, l'Esprit va descendre. Il va débarquer. Il va descendre sur le Cénacle. Et je vis ce temps du Cénacle, je suis au Cénacle avec la Vierge Marie, et je m'appuie sur sa foi, je lui demande « Marie, donne-moi ta foi, donne-moi cette qualité de foi, de croire que le Saint-Esprit va descendre dans mon cœur, va venir me renouveler là où j'en ai besoin, et je pose cet acte de foi qui me fait dire, parce que je marche non par la vue, mais par la foi, que c'est réalisé, que c'est réalisé. » Ça, c'est vraiment, ça doit être une conviction dans notre cœur. Et je dois marcher après la Pentecôte d'une autre manière, en chrétien vivifié par le Saint-Esprit. Et je peux, une deuxième chose, déposer toutes mes peurs, toutes mes craintes qui m'envahissent, comme le matin, vous avez parlé de la peur des apôtres et du fait que Marie n'avait pas peur. Eh bien, le matin de Pâques, ils étaient enfermés, complètement confinés, avec la peur au ventre à cause des Juifs. Jésus est arrivé et il leur a dit « Paix à vous ». Vous passez en fait, ils vont passer du matin de Pâques de la peur à la joie des persécutions. À la joie des persécutions. Eh bien, il faut demander cette joie-là au Seigneur, de la joie de l'évangélisation jusqu'aux persécutions.
C'est le mot de fin. La joie jusqu'au bout. Hein, voilà.
Oui,
et le oui jusqu'au bout. Hein, dans la joie.
Voilà, de manière inébranlable. Eh bien, Seigneur, donne-nous déjà d'anticiper cette joie de recevoir ton Esprit très saint qui va venir nous visiter. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu prépares déjà nos cœurs au don de ta force et qu'il puisse vivifier chacune des cellules, chacune des facultés de ce que nous sommes pour que nous annoncions le saint nom de Jésus. Amen.
On va souhaiter bien sûr bonne fête de la Visitation et une très belle fête aussi de la Pentecôte. Merci à vous, Père Yann Dominique de la Forêt, et puis continuez bien ce ministère que vous avez et ce service que vous donnez actuellement en mission ici dans ce sanctuaire de Lourdes. Merci.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.